Pas de soucis.
On a peut-être un problème avec le micro.
Lorsque mon grand-père mourut, je fus investi d'un pouvoir. Je regardais fixement son violon et les cordes se mettaient à jouer toutes seules. Une musique s'élevait par vagues, solfège de ruches, abeilles au-dessus d'un champ de marguerites. Oh, c'était le violon des soirs, des dimanches et des bals. Mon grand-père en jouait une fois rentré à la maison après son travail à la mine. C'était son art et sa consolation. Je crois qu'il ne se lavait soigneusement et ne changeait de vêtements que pour serrer dans ses bras son violon. Comment fais-tu pour en jouer si bien avec ces doigts-là? Il plaçait avec précision sur la touche aveugle le bout de ses doigts noircis, épais comme du cuir, sans fausses notes. Il jouait des airs inventés dans les boyaux de la mine, la lampe sur le front et l'obscurité dans le dos, quand la galerie ruisselait comme son visage. Il rentrait avec les notes dans sa tête et les faisait sortir à toute vitesse. Comment était-il possible qu'un morceau de bois si petit eût tant de voix ? C'était une musique née sous sa pioche, son qui était dans la terre et se dégageait de la scorie sous ses coups précis. Il extrayait du fer pour la mine et de la musique pour lui, fracassant la matière. Le dimanche, il jouait dans les fêtes des airs de danse ou de chansons. Il m'emmenait avec lui. J'étais silencieux, mais il me poussait à lancer un cri. Il en sortait un « là », étouffé, sur lequel il accordait son violon. Il me disait que dans la galerie, la pioche produisait parfois la note en frappant une veine de pierre plus dure. Le fer et toi, vous avez un diapason dans le corps. Il jouait sans regarder la touche. Il jouait pour tout le monde et jamais pour de l'argent. La musique en souffre. Il resta dans la galerie effondré, enseveli, loin de son violon. Quand mes larmes séchèrent, ce pouvoir apparut. Je fixai le violon et le violon jouait. Quelqu'un m'épiait dans l'ombre, souriait en écoutant ce jeu. Il y a toujours un saint en sentinelle pour une enfance silencieuse. J'étais maigre, je me promenais dans les montagnes m'éloignant du village. Je grandissais grimpant sur les rochers. Je connaissais les prises, les aspérités qui tolèrent tout juste une phalange et qui apprennent à répartir le poids du corps sur de très petites saillies. Je n'avais pas parti lié avec les jeunes du village. Je grandissais en sachant que je n'irais pas à la mine. Je préférais les précipices aux boyaux. Parfois, suspendu en sortie d'un surplomb, je sentais les pierres m'effleurer en tombant, sifflant dans l'air la note du diapason, le « la ». Le vent apportait une musique par onde qui faisait vibrer mon corps tendu comme une voile. Quelqu'un m'observait d'une éraflure de l'abîme. En suivant sa musique, je montais plus lestement vers le sommet. Des étrangers venaient visiter nos montagnes. Ils cherchaient de nouveaux sentiers pour franchir les sommets avec des cordes et des pitons. Ils tentaient un passage dans les parois. Ils voulaient que j'aille avec eux, une corde autour de la taille pour leur indiquer une voie. Mais je filais bien loin, je n'étais pas un chien qu'on tient attaché à une corde. Je montais sans les lacets, puis je descendais par le même chemin. Je refaisais en descente ce que je savais faire en montée. Une paroi rocheuse se caresse dans le sens du poil. et à rebrousse-poil en descente, et il me fallait chercher des appuis vers le bas avec mes jambes. Parfois, je montais la nuit pour échapper à leur longue vue. La lune me suffisait. Je me fiais plus à mes doigts qu'à mes yeux. C'est ce que faisaient les doigts de mon grand-père, qui couraient juste sur la touche aveugle du violon. Moi aussi, je sentais dans mon corps une exactitude dessinant avec mes quatre points d'appui l'esquisse d'un accord, comme les quatre doigts d'une main gauche. J'étais muet. De ma gorge ne sortait aucune chanson, mais dans mes oreilles jouait l'air d'une danse de noces effrénée quand, sous le surplomb d'un toit, ma main aveugle cherchait la prise de la sortie au-delà de l'obstacle plongeant. Alors, si elle était bonne, je laissais mon corps se balancer au-dessus du vert du vide avec ses lointains sapins et ses taches de pâturage au fond de la vallée. J'avais les doigts assez durs pour porter deux corps. J'avais les doigts de mon grand-père. Une fois, je dévissais. Je lâchais la prise et sentis mon corps se serrer dans une coquille. Je tombais, fermé comme une noix. Au-dessous de moi, un pierrier éblouissant me reçut dans sa pente, me faisant rouler le long de ses rapides. Je ne protégeais pas ma chute de mes mains. En vol, je les serrais sous mes bras. Je ne voulais surtout pas me rompre ces os-là. Tout ce que je me cassais, ce fut le nez, en me cognant la figure contre la dernière pierre. Parfois, les montagnes chassent les fourmis de leur dos. Un jet de pierre provoqué par un corbeau au sommet suffit à faucher la paroi sous nos petites pattes. D'autres fois, le vent essaie tout seul de nous pousser dans le vide. Il souffle, gonfle nos vêtements et donne envie de faire un plongeon dans sa caresse. Moi, il me suffit d'enfoncer un seul doigt, le médium, dans un trou, dans une fissure, pour rester à l'ancre. Dans la vallée, on formait les premiers guides pour accompagner les étrangers sur les montagnes. Un muet n'avait pas sa place. Aussi, je suivis un cirque de passage au pays et j'appris les numéros d'adresse des acrobates. Moi aussi, je gagnais ma vie en offrant le risque de la chute, sautant d'une corde à l'autre, exécutant des vols pour un public pauvre, sous des chapiteaux rapiécés. Du bois, on tire deux poudres, la sciure ou la cendre. Les cirques sentent la sciure. Je l'ai eue dans la bouche bien des fois en tombant d'un point d'appui de raté, d'une prise glissante. Je voltigeais au-dessus d'un public assis, mais si je tombais, il se levait brusquement, suivant une loi mystérieuse de contrepoids. À ma chute au sol correspondait sa levée. Venait ensuite l'agitation des secours et, dans chaque maison, je pouvais imaginer le récit de l'incident, la surprise d'avoir assisté à un cas unique. Le spectacle d'un cirque doit être généreux en risque. Les exercices d'un acrobate sont complémentaires des gestes d'un torero. Il cherche l'angle de fuite exact. Un taureau et un vide les chargent tous les deux en les frôlant. J'ignore sincèrement si dans l'arène, l'homme sent qu'il tourne autour d'un abîme, mais je sais que l'obscurité de la piste au-dessous de moi ressemblait à l'échine noire d'une bête en furie. Certains soirs, je pouvais me sentir léger comme l'archet du violon de mon grand-père qui effleurait les cordes avec précision et en fugue. Quelqu'un apaisait le vide et moi, je passais dans l'air sans effort. Un air chanté, la bouche fermée, m'accompagnait en vol. Bien avant d'être vieux, j'étais déjà miné par les fractures. J'étais resté au cirque comme on m'a tout fait. Je montais et démontais la voûte de toile sous laquelle le spectacle se déroulait tous les soirs. Dans une ville de la côte, nous hissâmes notre échafaudage sur une petite place, juste en face de la mer. Le sel le rendit glissant. Je tombais à nouveau, mais par terre il n'y avait pas la piste et sa sciure. J'eus du sang à la bouche comme un goût de cendre. À l'hôpital, on me suspendit à des fils, tubes, câbles, étirés comme une marionnette. Dans le lit voisin, un garçon était encore plus mal que moi. Le soir, la salle se vidait. Un jeune garçon ne devrait pas se trouver seul lorsque brusquement la vie ressemble à un bruit de pas qui s'éloigne au fond d'une salle commune. Il portait des lunettes. Dans la journée, une infirmière voulut les lui ôter. Et il dit non, non, d'une voix éteinte, dans laquelle s'était fugé l'ultime effort d'une volonté. Cette nuit-là, j'entendis ses râles, puis vint le bruit de fer du sommier qui grince. Au milieu de ses frissons, ses lunettes tombèrent et tintèrent d'un là, limpide, faible en touchant le sol. Alors, je me secouai, remontai du fond, m'extirpai du lit, arrachant fil, tube et tout ce qui me tenait. À genoux, je cherchais ses lunettes par terre. Je voulais les lui remettre. Oh, chose stupide, certes, mais j'éprouvais le désir frénétique de le faire. Dans le noir, s'éleva un air de violon pour me calmer. Je me remis debout, vêtu de bandages pendants. Je lui mis ses lunettes sur le nez. Sitôt ce geste accompli, je tombai à terre. De nouveaux centimètres de chute, les derniers, s'ajoutèrent aux nombreux mètres tant de fois franchis dans mes vols à pic. Ah, il y a des centimètres et des secondes qui contiennent un résumé d'abîme. Je serrai les dents. Ma bouche était remplie de cendres chaudes. Oh, le bord du lit était loin. Je le voyais du sol, haut comme une grille, moi dehors. Dans mes oreilles, chantait le violon de mon grand-père. Oh, la dernière chose que j'entendis fut la respiration du jeune homme qui repartait.
Precario scaduto. C'est ce que dit Chiara, l'héroïne d'Acqua Scura.
Plus fort.
Une seconde, je t'en.
Svi. Svi a un occurrence, je ne sais pas. Si Chiara est bien italienne, lui est originaire de Lituanie. Ses parents, ses grands-parents étaient des juifs, arrivés par on ne sait quel détour qui sont en Italie. Ils sont à Acqua Scura. Acqua Scura, c'est le nom d'un village. Un village imaginaire. C'est le titre qu'a donné aussi Simonetta Greggio à l'une de ses nouvelles qu'elle a fait paraître au sein d'un recueil appelé L'odeur du figuier. Simonetta Greggio, eh bien vous la connaissez certainement, elle est l'auteur d'un livre célèbre, Dolce Vita. Vous savez, cette Dolce Vita. Quand dans Paris, il y avait les pavés, la plage, et bien sous la Vespa, il y avait corruption, enlèvement, meurtre d'Aldo Moro, par exemple, mort de Pasolini, intrigue au Vatican. Enfin, la comparaison est un peu difficile à faire entre nos pavés parisiens et la Dolce Vita italienne. Elle a écrit d'ailleurs, Simonetta Greggio a d'ailleurs écrit une suite, Dolce Vita c'est 59-79, sous le titre Des nouveaux monstres. C'est paru en 2014, je crois. Donc Acqua Scura, eh bien Acqua Scura, ce soir pour nous, c'est le nom d'un village, comme je vous l'ai dit, un village imaginaire. Un village du Mezzogiorno. On ne sait trop où. On sait qu'on y boit un vin pas extraordinaire, que le meilleur qu'on puisse y boire est le vin de Pantelleria. Alors ça peut peut-être indiquer qu'on n'est pas loin de cette île, entre Sicile et les côtes tunisiennes, peut-être justement sur la côte sud de la Sicile.
Peu importe.
Acquascura, c'est donc un village qui a connu son heure de gloire, au temps de la Dolce Vita. Beaucoup de gens, beaucoup de jeunes venaient là. La Jet Society. S'amuser, voir. Il ne reste de cette époque qu'une paillotte. Le sombrero. C'est à peu près tout. Et puis il y a notre couple dont j'ai parlé, Chiara et Zvi. Ils sont tous les deux professeurs. Je ne sais pas de quoi. Elle est titulaire de son poste. Mais lui, eh bien je vous l'ai dit, il est un précaire. Et comme il n'a pas de travail, il n'est pas titulaire. Et comme il n'a pas de travail tout le temps, eh bien, il fait des petits boulots. Et pas très habile, ben, il lui arrive de tomber d'un échafaudage. Donc il a quelques séquelles, des maux de tête, quelques petits problèmes de temps en temps. Mais peu importe. Tous les deux, ben, c'est d'un amour éternel, car ils se sont connus à la maternelle, justement, maternelle. Ils se sont séparés qu'une fois, quand ils étaient au lycée, et ils avaient à peu près 17 ans, ils se sont retrouvés mariés, ils ne se quittent plus. Alors quel âge ont-ils? Je ne sais pas, on ne le sait pas, peu importe. C'est pas une habitude chez eux que de s'aimer. Et chaque année, eh bien, ils viennent. Ils viennent à Acquascura, dans une maison. Oh, dans le midi de la France, on ne dirait pas une maison, on dirait un cabanon. Tant son état est précaire. La peinture qui tombe dans les pièces, l'électricité défaillante de temps en temps, il n'y en a plus. Et le soir, il faut s'éclairer à la bougie. De l'eau chaude, épisodiquement, mais comme il fait beau, peu importe. Car ils passent leur temps, tous deux, à aller se baigner. La mer est juste en dessous de la maison. On y descend par un sentier de chèvres, très difficile. Et ils commencent parfois, ce qui pourrait indiquer qu'ils commencent à vieillir, ils commencent parfois à avoir quelques difficultés à remonter la pente. Alors s'ils veulent prendre un chemin un peu plus aisé, ils ont une route, un chemin un peu plus large, qui peut les mener au village, avec quelques lacets. D'ailleurs, quand ils ont besoin d'aller chercher quelques courses plus importantes, eh bien, ils pratiquent ce chemin et ils empruntent, s'ils ont beaucoup à ramener, ils empruntent la Fiat 500 de leur plus proche voisin. Mais la pente est si rude quand même que la voiture ne va pas jusqu'au bout et ne les ramène pas jusqu'à leur maison. Alors, ils passent leur temps, oui, à descendre à la mer, se baigner, manger, boire, on a évoqué le vin tout à l'heure. Et puis, ben voilà, ils lisent aussi. Lui, il préfère les romans américains et les romans russes. Et ils passent leur temps comme ça. Ça paraît un petit peu monotone. Chaque année, lui, il fait quelques frais quand même. C'est son dada. Il achète régulièrement. Lorsqu'il sait qu'il va venir à Acquascura, il achète le tuba, les palmes et le masque qu'il met dans son sac à dos pour aller sur la plage et se baigner, car c'est un excellent nageur. Ce qui inquiète fortement Chiara, car, je vous l'ai dit, il a eu des petits problèmes après sa chute. Et donc, elle a toujours peur qu'il ait un malaise, qu'il se passe quelque chose hors de sa vue. Et puis, un soir, ils ne réussirent pas à terminer leur dîner. Chiara se trémoussait sur sa chaise depuis un petit moment. Zvi la regardait, interloquée.
Brusquement, elle détendit une jambe. La piqûre
était aussi cuisante que le frôlement d'une flamme. Une guêpe, un scorpion, elle bondit, heurtant la bougie qui s'éteignit. Zvi rentra chercher un briquet, ralluma la bougie et, à sa lumière tremblotante dans la brise, ils virent que les jambes de Tchara étaient noires de fourmis. Ils les firent tomber à l'aide de leur serviette. Tchara sautillait énervée, pendant qu'il lui disait de se tenir tranquille. Elle avait le cou de pied gonflé et rouge, une grosse ampoule enflait à vue d'œil. Zvi l'aida à se déshabiller, l'entraîna sous la douche, pour ôter les fourmis qui auraient pu se cacher dans les replis des genoux et de l'aine. Elle en sortit frigorifiée. Il secoua sa robe par la fenêtre de la chambre. Ils retournèrent dans le jardin où leur dîner interrompu les attendait. La cloque, sur le pied de Tchara, était enflammée. Zvi y avait appliqué ses lèvres pour en sucer le venin. Il préférait mourir à sa place, avait-il dit très sérieux. Elle s'était tue, mirieuse, mi-impressionnée. Le dîner était fichu. Les fourmis avaient envahi les assiettes. Zvi et Tchara jetèrent les restes en fermant hermétiquement le sac poubelle et terminèrent le vin sur la terrasse. Ils ouvrirent un moustiquaire au-dessus du lit. L'horloge de l'église sonna 11 heures, mais il manquait un quart d'heure à minuit.
Est-ce que tu crois que c'est l'odeur du lapin au romarin qui les a excités comme ça? Demanda Zvi.
C'est possible, oui. Ce n'est certainement pas la salade de tomates, répondit Tchala.
Elles ont leur nid dans le jardin, sur la colonne, à côté du citronnier, et aussi dans les joints du vieux puits, répliqua Zvi.
Oui, je les ai remarquées quand j'ai étendu ta chemise hier. Elles sont minuscules, des grains de sable, et elles ne sont pas noires, plutôt rouges. Je ne me souviens pas de les avoir vues. Enfin, avant, quand j'étais enfant. Est-ce qu'elles étaient là les premières fois qu'on venait ici? Ou est-ce qu'elles ne feraient pas plutôt partie d'une nouvelle espèce?
Tchara mordit sa lèvre inférieure comme elle le faisait quand elle était concentrée, puis continua.
Avec le réchauffement de la planète et tout ça, tu vois, peut-être que c'est une espèce africaine, une race carnassière qui serait remontée en Italie avec je ne sais pas moi, sur les ailes d'une tempête tropicale. En tout cas, elles sont virulentes. Ça ne m'est arrivé qu'avec les guêpes, une douleur pareille. Ça ressemble à une secousse électrique.
Zvi ne disait rien. Elle lui fit un pauvre petit sourire.
C'est la première fois qu'elles attaquent comme ça, le soir en plus. C'est bizarre, non?
Zvi rit.
Elle le regarda interrogative.
What? Tu as le sourire en zigzag des bandes dessinées.
Tchara papillonna des cils, bâilla longuement, s'étira.
Zvi fondait quand il la voyait faire ça.
Yeux enfantes, bouche ouverte, rouge et blanche, fraîche et jolie comme un chaton.
Ce n'est pas ça qui va m'empêcher de me coucher, dit-elle. Je ne sais pas, toi, mais moi, je suis claqué.
Zvi se réveilla dans un hurlement suffoqué.
Aïe!
Il alluma.
Qu'est-ce qui t'arrive? Demanda Tchara en ouvrant les yeux dans le noir.
Bordel, bordel, ça fait mal, bordel. Mais qu'est-ce qu'il y a, tu as mal où? Demanda encore Tchara.
Bordel, nom de Dieu, bordel, non.
Cette fois-ci, Tchara se pencha sur l'interrupteur en écartant les voiles de la moustiquaire. Il était bien rare d'entendre Zvi jurer. Normalement, il avait une élocution d'évêque.
Regarde cette saleté.
La saleté était une chose noire et rouge qui se contorsionnait au bout du doigt de Zvi. Une fourmi qui venait de lui piquer le sexe.
Dedans, spécifia Zvi, avec une mine outrée, en écrasant la fourmi entre le pouce et l'index avec une satisfaction dégoûtée.
Tchara lui effleura le front d'une caresse, alla chercher une serviette qu'elle mit sous l'eau froide, revint dans la chambre.
Tchara regardait Zvi, puis la serviette qu'elle avait à la main, sans pouvoir se décider.
L'eau gouttait par terre, Zvi la prit, alla la tordre à la fenêtre, repartit avec elle dans la salle de bain. Lorsqu'il se remit au lit, il avait enfilé un slip.
Tchara ne commenta pas, lui demandant juste si ça lui faisait encore mal.
comme un pincement, pas vraiment un fer, mais comme si on m'avait injecté de la novocaïne. Tu sais, quand le dentiste t'endort la gencive, ils éteignirent à nouveau la lumière, le silence retomba dans la chambre, à peine rompu par le grésillement des grillons dehors. Le silence ne dura pas. Chiara se réveilla en sursaut et sauta du lit comme un diable, en criant. Zvi hurla à son tour en roulant hors du lit et se prenant les pieds dans la moustiquaire. La lumière se ralluma. Ensemble, ils secouèrent, draps et oreillers, par la fenêtre au-dessus du jardin. Quelques fourmis prises dans les replis en tombèrent. Ils refirent le lit. Chiara avait les gestes lents de somnambule, comme si elle se plaisait à prendre son temps. Une tache brune se déplaçait sur le mur. Regarde ça. Ils observèrent, abasourdis, une file sombre de fourmis derrière la lampe de chevet. Elles avaient paralysé des insectes, attirés par la lumière, et des jolis papillons vert pâle, 100 fois plus grands qu'elles, et les transportaient vers une fissure entre les poutres. Ils se couchèrent silencieux, en frissonnant. Le lendemain, le soleil resplendissait sur la mer. Il leur semblait que jamais ils ne s'accoutumeraient à cette splendeur renouvelée, à cette lumière bleue que l'on ne pouvait regarder qu'entre les cils. Dans le ciel, deux nuages roses disaient qu'il était encore tôt. L'horloge de l'église sonna 6h15. Ils n'avaient pas beaucoup dormi, mais bondirent du lit, avides de cette journée. Pendant que Chiara préparait le café, Zvi en profita pour aller voir ce qu'il en était. Il n'y avait plus de fourmis nulle part, disparues comme si elles n'avaient jamais existé. Chiara ouvrit le frigo pour prendre le lait et s'immobilisa la bouche ouverte. Leur réserve fourmillait de petits corps frénétiques. Il y en avait des millions. Elle referma doucement la porte et appela Zvi. Ils ajournèrent leur déplacement en ville et passèrent la matinée à tout nettoyer, tout éponger. Les minuscules cadavres s'entassèrent dans l'évier puis furent balayés par le tourbillon d'eau qui les emporta dans les profondeurs de la terre. Satisfaits, ils se firent à déjeuner et descendirent le hamac pour la sieste. La grosse toile était remplie de fourmis. Zvi alla dans la cave chercher un gros flacon d'insecticide. Il ne l'avait jamais utilisé. Ils étaient contre les agressions chimiques, à tel point que la bombe, relique dont ne sait quel ancien été, avait le front rongé par la rouille. Mais elle fonctionna. En quelques instants, les fourmis se recroquevillèrent et tombèrent, mortes. Ils secouèrent le hamac et firent une longue sieste, enlacés dans l'air immobile, criblé des cigales de l'après-midi. Quand ils descendirent à la mer, leur corps sentait l'insecticide. Ils prirent un long bain et en sortirent rafraîchis, sentant le sel et l'algue laver. Le soir, ils allèrent manger une pizza au village. Ils croisèrent la camionnette de Salvatore qui les salua d'un grand sourire. Chiara détourna le regard. Il faut dire que Salvatore était un ange, une merveille. Il était beau, beau à damner. Des cheveux bouclés tombant sur le visage, une bouche de fille à mordre, des yeux noirs. Et quand un jour que Chiara lui avait acheté des poissons, il était poissonnier itinérant, il faisait sa tournée avec sa camionnette, et qu'il lui avait donné un petit cadeau, un cornet de crevettes, et qu'il avait effleuré sa main de la sienne, elle en avait été bouleversée et était rentrée fâchée de s'être attendrie de cette manière et un peu laissée aller, ne serait-ce qu'un court instant. L'horloge de l'église sonnait à demi de 10h quand ils entrèrent dans le magasin de Milma. Il restait ouvert jusqu'à tard en été. Pas question de manquer une vente pendant la courte saison des vacances. Ils achetèrent une batterie de poudre insecticide, des pièges, Vous n'avez qu'à les poser au coin de passage des fourmis. Dedans, il y a quelque chose qui les attire, je ne sais quoi. Elles emmèneront le poison dans la tanière, la reine mourra et la fourmilière sera exterminée. Des sprays bio et d'autres choses à base de géranium et citronnelle. Ils tombèrent aussi un insecticide avec une horrible tête de mort. Dès l'entrée, une fois la lumière allumée, ils virent la procession de fourmis ondulées sur le mur. Elles entouraient des noctuelles qu'elles piquaient puis chargeaient sur leur dos pour les emporter. Sahara, le chat, qui était entré dans la maison dans leur genre, observait la scène avec eux. Il se détourna assez vite pour se dédier à son jeu préféré, attraper les geckos sous le lampadaire. Les geckos étaient en chasse eux aussi, car les insectes attirés par la lumière se laissaient prendre assez facilement. Cette cruauté, cette voracité donnèrent la nausée à Tiala. Elle eut un hoquet et éteignit les deux lampes. Les geckos se cachèrent dans les fissures du mur et Sahara s'éloigna vers le jardin, vexée. Dans le frigo, presque vide, à part un bocal d'olives noires et un berlingot de tomates pelati, flottait une odeur de citron et de javel. Zvi et Tiala burent une bière sur la petite terrasse, aspergèrent leur corps de citronnelle et les pieds du lit d'insecticide à tête de mort. Entre les draps, ils ne s'en rapprochèrent pas, gênés et troublés par ces odeurs, ils n'étaient pas les leurs. Le lendemain, ils empruntèrent la Fiat 500 du voisin et allèrent tous les deux à la pharmacie. L'inflammation était passée, mais la pharmacienne, diserte, leur conseilla quand même un spray antiseptique et apaisant, en souhaitant toutefois qu'ils n'en aient plus besoin. Chara et elle épiloguèrent sur l'étrangeté des comportements des bêtes en général, et des insectes en particulier. Zui, interrogé, se tut sur la nature de ces brûlures. Il se retourna brusquement et dit à Tiara qu'il l'attendrait dehors. Elle s'excusa auprès de la pharmacienne et sortit à sa suite. Zui avait déjà filé à la librairie et Tiara le trouva en train de choisir des livres de poche défraîchis dans une caisse. Ils en achetèrent une dizaine, mangèrent des glaces dans la grande rue à l'heure du struccio, et se payèrent des maillots de bain en sol, car les leurs n'avaient même plus d'élastique. Le soir, le spray anesthésique fut rangé au fond de l'armoire à pharmacie et oublié, ainsi que l'invasion des fourmis. L'été reprit son cours. Les nuits et les jours recommencèrent à s'égrener. Zui, maintenant, se levait avant Tiara et partait à l'eau, après son petit déjeuner avec son équipement de plongée dans son sac à dos. Son souffle s'était amélioré, sa poitrine et ses bras avaient forci, et il était inhabituel désormais que la montée vers la maison le fatigue. Tiara le rejoignait à la plage en début d'après-midi, quelques sandwichs, des fruits et une bouteille d'eau dans sa besace. Avec des bambous et un drap, Zui avait monté sur les rochers une sorte de tente qu'il démontait le soir. Il s'y faisait la sieste. La moiteur de l'air rendaient leur corps huileux, glissant. Ils se racontaient des longues histoires qu'ils avaient lues et qui se terminaient dans le sommeil ou dans l'eau fraîche, selon l'envie, selon la chaleur. Les heures s'écoulaient, sans se presser, les unes après les autres. Elle se leva tout doucement, pour ne pas déranger Zui, écarta le drap blanc qu'elle replia sur la tige en bambou, se tint debout sur le rocher. Combien d'été ? Combien de nuits sans sommeil, combien de gestes retenus, de mots pas prononcés. Comment arrivait-il jour après jour à s'esquiver, à prévenir le manque, à éluder, à écarter la peine? Zui continuait à dormir. Tout autour, il n'y avait que la plage déserte, la mer sans couleur sous le soleil et pas de vagues. Même les oiseaux se taisaient, sa tête tournait. Elle plongea pour se retrouver entre deux bleus. Un bleu noir et calme, et un azur mousseux. La mer était profonde à cet endroit. Elle se laissa aller vers le bas, portée par le poids de son corps qui sombrait doucement, le sang battant et chantant dans ses oreilles, les membres lourds et sans force. Elle tournoya sur elle-même, s'abandonna sur le dos, bras et jambes écartés, et regarda vers l'eau. Elle flottait dans une sorte de crépuscule orageux. Le soleil rayonnait dans l'eau, lançant ses épées jusque dans le sable, tout en bas. C'était comme si dans le ciel des étoiles noires s'étaient mises à danser. Elle donna un coup de talon et revint vers la lumière. Tzvi, qui s'était réveillé, lui donna la main pour sortir, puis plongea à son tour. Chiara resta sur le rocher, les bras autour des genoux, grelottante sous le soleil. Lorsqu'elle se sentit mieux, lorsque sa peau devint chaude à nouveau, elle alla le rejoindre. Ils nagèrent jusqu'à la pointe la plus lointaine. De temps à autre, Chiara faisait la planche pour se reposer, pendant que Tzvi allait explorer un trou entre les rochers, tout au fond. Tzvi lui demanda comment elle se sentait, inquiet de son silence et de sa pâleur. Il alla chercher un granit au melon dans la paillote du sombrero qui fermait, puis se pencha pour l'embrasser et cueillir un cristal de glace sur sa lèvre. Chiara s'accrocha à lui les mains derrière sa nuque et entreprit de l'embrasser. D'un bond, il se remit debout, les mains sur les hanches, et dit « Allons-y ». Chiara réprima une pulsion de haine. « Je ne bouge pas ». Tzvi la regarda sans rien dire. Elle enfouit la tête sous la serviette. Les mots en jaillirent, suffoqués. « Vas-y, toi, prépare le dîner, et mets la table. » Puis elle se tourna vers la mer. Tzvi se taisait. « J'arriverai quand j'arriverai », se contenta-t-elle d'ajouter. Il lui caressa le volet sans rancune, lui dit au revoir. Elle leva la jambe, le salua du pied tout en restant étendue, le visage toujours dans la serviette. Longtemps, elle resta ainsi à laisser ses pensées errer sans but. Les yeux fermés, engourdie, elle ne s'aperçut pas que le soir envahissait la plage ni qu'elle était restée toute seule. Des cris lui firent d'ouvrir les yeux. Cachée dans l'ombre du rocher, elle pouvait voir sans être vue. Il n'y avait plus personne, à part Salvatore et une jolie jeune fille aussi brune que lui qui jouait dans les vagues. Chiara voulut se lever, s'en aller avant qu'il ne soit trop tard, mais elle avait les bras douloureux et les jambes lourdes. Elle les vit s'étendre sur le sable, se déshabiller, s'embrasser, commencer à se caresser. Elle les vit frissonner, entendit leurs murmures et leurs soupirs. Elle avait honte d'être là, mais aussi envie de regarder, comme une soif, comme une faim. Elle savait que lorsqu'il s'en irait, il la verrait sûrement d'en haut. Il n'y avait rien à faire. Maintenant ou plus tard, c'était pareil. Chiara choisit de partir tout de suite. Passant près d'eux, quelque chose la poussa à les saluer. La jeune fille tourna les yeux, nichant son visage entre le cou et l'épaule de Salvatore. Il répondit en souriant, sans malice et pourtant effronté, sombre et nu, les cheveux en désordre, lisse, jeune et beau. Cette nuit-là, Chiara dormit toute seule. Tzvi, gentil et muet, perdu sans elle, alla coucher dans le hamac, dehors. Mais au petit matin, il retourna dans la chambre, prit Chiara dans ses bras et la berça comme s'il était un petit enfant, pendant qu'elle pleurait à gros sanglots. Sans pouvoir s'arrêter. Il y a encore des jours de mer, tous égaux. C'est l'époque des loups, Tzvi en attrape deux qu'ils font cuire au barbecue. L'odeur du poisson grillé rend fou les chats. Ils boivent presque deux bouteilles de vin, mangent les premières figues en s'embrassant, se les volant dans la bouche, jusqu'à en avoir le menton et le nez aussi crasseux que les enfants mangeant des tartines de Nutella. Lorsqu'ils se couchent, Tzvi se tourne de son côté, trouve très vite la bonne position et s'endort, fatigué par la pêche et le vin. Chiara croyait qu'elle allait craquer, se mettre à hurler, devenir folle. La coque intérieure de l'oreille lui faisait si mal qu'il lui semblait être revenu au temps de son enfance quand une otite lui avait perforé le tympan. Elle sentait quelque chose bouger loin, loin à l'intérieur de l'oreille. Cette chose allait lui ronger le cerveau, c'est sûr. Elle se leva paniquée, arrachant les voiles de la moustiquaire dans sa course désordonnée et se précipita dans le jardin. Elle ouvrit à fond la manette qui amorçait la pompe d'eau et serrant le tuyau entre deux doigts créa une pression plus forte, puis approcha l'embouchure de son oreille. Tzvi la rejoignit peu après. Chiara restait là dans l'eau naissante, toute tremblante, sa chemise de nuit trempée, agitée par les sanglots. Quand il la prit, pour l'essuyer d'une grande serviette blanche, Dui vit que sur le tissu, il y avait des petits corps de fourmis. Chiara les vit aussi et sanglota plus fort. Pendant qu'ils prenaient leur petit déjeuner, elle avec une serviette en turban sur la tête et des lunettes de soleil noir, car la lumière lui blessait les yeux, lui qui n'en venait pas large, submergé par un sentiment confus de culpabilité, il interpella en plaisantant Carolina, la grosse chatte noire et blanche. « Si au moins tu bouffais les fourmis, Carolina !» La chatte continua à faire sa toilette, se léchant la poitrine de haut en bas. « Regarde-là, tu vois ce que je vois ?» souffla Chiara. La chatte s'en allait en clopinant d'une manière très curieuse. Elle marchait en levant très haut les pattes, un peu comme si elle trottinait sur la neige. Ses poils étaient pleins de fourmis, et sur le carrelage de terre cuite patiné par les années, il y en avait des flaques qui semblaient sourdre du sol. Elles entraient dans la petite boîte blanche dont ils avaient parsemé leur territoire, d'autres en sortaient, d'autres encore virevoltaient tout autour en s'effleurant de leurs antennes, dans un ballet compliqué. Dui prit le commandement des opérations. Il envoya Chiara à la mer, nettoya la maison de fond en comble, puis descendit au village. Lorsqu'il en remonta, il trafiqua quelque temps dans la cuisine. Ensuite, les bras chargés de seaux remplis d'eau bouillante mélangée à de l'acide qu'il avait acheté chez Mima, il fit plusieurs expéditions dans le jardin. Il déversa la mixture dans le puits tari, sur la margelle et autour de la colonne en pierre. Des milliards de fourmis en surgirent dans un crachat frémissant. Dui se pencha, il avait l'impression qu'un hurlement épouvanté, rageur, sortait des viscères de la terre, mais ce n'était que le bruit provenant du mélange bouillonnant qu'il versait et qui brûlait tout sur son passage. Le jaillissement des fourmis se fit plus continu. Puis peu à peu s'épuisa. Bientôt, sous le soleil, il ne resta plus que les traces blanches de l'acide sur les dalles en pierre, quelques plaques d'herbe ravagées et des petits tas noirs d'insectes calcinés dispersés par le vent qui venait de se lever. La nuit, il y eut un orage. Les foudres tombaient dans la mer, l'air était noir, saturé d'ozone. On en avait les yeux qui piquaient. Chiara et Dui restèrent enlacés devant la fenêtre, avec une couverture posée sur eux, comme des chefs indiens. Tu connais cette fille ? Je t'expliquerai tout. Tu l'as embrassée ? Je t'expliquerai tout. Il se tut. Chiara écumait de rage. Dui reprit. Vraiment, tiens. Chiara était exaspérée. Pour quelqu'un qu'il n'avait soi-disant pas remarqué, il l'avait quand même bien regardé, la jeune amie de Salvatore, lorsqu'elle était passée tout près d'eux un peu plus tôt à la plage. Elle avait souri à Dui, et Chiara avait intercepté un clin d'œil pendant qu'elle se retournait. Dui n'avait pas réagi, bouche en cul de poule et prunelles candides. C'est sur le chemin du retour, lorsqu'il l'avait rencontrée de nouveau avec son maillot de bain rose et or, ses longs talons qui lui retournaient les chevilles et ses longs cheveux qui s'entortillaient sur sa figure, que Chiara avait explosé. La fille avait dit bonjour à Dui en le dévisageant d'un air coquin et en passant la langue sur ses lèvres. Mais Dui prit les mains de Chiara, la força à se tourner vers lui, lui embrassa la bouche et les yeux, la tint sous le feu de son regard, mâchoire serrée, pendant quelques minutes. Et la colère reflua. Une balade dans la pinède, résine au soleil, aiguille de pain chaud, air salé et crème solaire. La plainte des cigales couvre tout, même le bruit des vagues en contrebas. Chiara et Dui ne se tiennent pas la main. Marche chacun pour soi, la tête baissée, obstinée, silencieuse, épuisée. Soir d'une journée douce, brumeuse, presque fraîche, Chiara frissonne dans un switch trop large de Dui. Elle respire son odeur si terre. Dui n'est pas rentré. Le clocher de l'église sonne la demi. La demi, quelle heure? Il est déjà tard, déjà. Le dîner attend sur la terrasse, bougies allumées. Zvi n'est pas rentré. Une sirène résonne dans la vallée, puis une autre. C'est une ambulance qui traverse Akwaskoul, suivie par une voiture de pompiers. On ne les entend pas pendant quelques secondes, puis passer le virage, on les entend à nouveau. Elles doivent être sur la plage maintenant. Un vent de folie traverse cette Tiara qui attrape ses baskets au vol. Sahara et Cléo sautent sur la table et dévorent le repas. Le sombrero, le sable, un bout de rocher, la mer. Puis à nouveau le sombrero, le sable, le rocher, la mer, gyrophare, orange, bleu, orange, orange, bleu, orange. Il y a un petit attroupement de gens, parmi lesquels Tiara distingue Jérémia, le poissonnier, vêtu d'un short large comme une tente, et d'un Marcel strié de noir comme s'il avait pleuré des larmes de suie. Et Mima qui se tord les mains. Elle essaie d'arrêter Tiara au passage, en lui agrippant le bras. Tiara se dégage. Elle passe devant tout ce monde comme devant des personnages de théâtre, isole les détails avec une acuité accrue, manque de trébucher dans ses lacets tandis qu'elle continue d'avancer vers l'ambulance. Le sac de plongée de Zvi est là, ouvert, au pied de la fille brune, la petite amie de Salvatore. Hirsute, une serviette jetée sur les épaules, le dos appuyé à l'ambulance, la fille vacille, à demi nue dans son maillot de bain. Elle lève à peine la tête sur Tiara lorsque son ombre la recouvre. Ses yeux sont des trous dans lesquels on peut lire la stupéfaction, l'horreur et une sorte de crainte aussi. Au ralenti, Tiara agrippe la poignée du portillon de l'ambulance qui grince en s'ouvrant. Un homme en blouse blanche, penché sur un corps, lui jette un regard irrité, referme la porte. Elle a à peine le temps d'entrevoir une chevelure de noyer, un torse mouillé, une bouche entrouverte, la plante des pieds trop blanche couverte de sable. Zvi sort de l'ombre, derrière l'ambulance, juste à temps pour la prendre dans ses bras avant qu'elle ne s'effondre. Tiara pleure. Jamais, lui semble-t-il, elle n'a pleuré comme ça. C'est une source intarissable qui naît de son cœur. Zvi retient ses poignets quand elle lui tape dessus avec ses poings. Elle suffoque, puis s'abat sur sa poitrine en bavant, marionnette brisée dans les larmes et la morve. Zvi l'emmène de force, la transportant presque jusqu'à la paillotte. Il la fait asseoir sur une chaise, s'assure d'un regard qu'elle y reste, retourne vers quelqu'un qui l'appelle. Tiara s'aperçoit que la jeune fille, toujours maître, les a suivies et s'est assise en face d'elle, comme si elle voulait lui dire quelque chose. À quelques mètres, Zvi parle avec un docteur et un policier en uniforme. Tiara boit du café très chaud, la jeune fille se remet debout, elle n'a pas de larmes, elle, juste un regard buté, atone, noir, que rien n'accroche. Elle balance la tête comme un ourson. Les gens parlent à voix basse. On entend Zvi qui s'évertue à expliquer pourquoi Salvatore utilisait son équipement. Les deux filles tournent le visage vers lui, le regardent s'énerver et faire des moulinets avec les bras. Le policier appelle l'ami de Salvatore. Tiara ne les rejoint pas. Elle considère l'étoile rouge au dos d'un pack de 6 bouteilles de San Pellegrino posées par terre près du comptoir. Elle ne connaît plus que ça. Ne sait plus que ça, cette étoile rouge qui tremble devant ses yeux. L'ambulance est toujours là, gyrophare éteint, porte fermée. Les pompiers sont partis. Salvatore a été déclaré mort. Choc anaphylactique, ils ont dit. Mais il faudra attendre les résultats de l'autopsie. Peut-être a-t-il marché sur une vivre, ou alors il s'est fait piquer par une murène, on ne sait pas encore. Quand il rentre chez eux, Zvi éclate en sanglots. Tiara ne l'a vu pleurer que deux fois. Une fois quand il a raté ses examens, une fois, il y a si longtemps, quand elle l'avait quitté à 17 ans. Elle le prend dans ses bras, le console, lui murmure les petits mots réconfortants qui ne veulent rien dire, ceux qui calment. Elle se sent loin de tout, étrangère à la vie, sèche. Quand Zvi cesse de pleurer, il se mouche dans sa manche, reste songeur quelque temps, se défaisant lentement des bras de Tiara, puis se lève. Il revient avec l'équipement de plongée qu'il avait laissé dans l'entrée. Il marche comme s'il portait un gros poids, comme s'il était très fatigué. Il ouvre son sac devant le canapé où Chiara est assise. Dedans, tout est bien rangé. Chiara se penche sur ce qu'il lui montre. Le tuba et l'embout sont bouchés par des amas de fourmis mortes. Lorsqu'ils ferment la porte derrière eux le lendemain matin, le cabanon semble ne pas avoir été habité de l'été. Volet fermé, moustiquaire doué. Ils descendent le chemin sans un regard en arrière, n'emportant que le sac marin que Zvi a jeté sur son épaule. Dedans, en vrac, il y a la robe bleue de Chiara, quelques t-shirts et leur chemise blanche. Dans la poche de l'un des pantalons en toile, qui vont indifféremment à l'un ou à l'autre, un grumeau brunâtre, immobile jusque-là, frémit, puis s'élargit, se désagrège et sort des replis. En file indienne, les fourmis recommencent à marcher.
Ça va être très court. Nous avons décidé comme cela, Françoise et moi, d'une nouvelle assez brève pour que l'histoire que nous racontait Daniel puisse avoir tout son poids et sa valeur, si vous voulez, de suspense en quelque sorte. Alors moi aussi, toujours Eri De Luca. Je vous lis une courte nouvelle qui s'appelle « La ville ne répondit pas ». Il n'arrive pas deux fois dans sa vie de lire debout un livre de 500 pages. Debout, dans l'humble garde-à-vous de celui qui d'une main se tient à la garde d'appui, à la barre d'appui d'une rame de métro, et de l'autre, serre, use les feuilles. C'était au cours de l'hiver 1981. La poussière d'un tremblement de terre n'était pas encore retombée. En bien des endroits, la ville était vide, en d'autres, couverte de campements. J'étais revenue à Naples. Partout, on dispensait avec frénésie les premiers secours d'une assistance du bâtiment. J'avais trouvé du travail sur un chantier. J'étais manœuvre, irrégulièrement embauchée au noir. Sous les voûtes, les arcs, les plafonds des immeubles anciens, nous hissions en guise d'été une forêt de pins fraîchement coupés. Nous donnions des béquilles à des pierres plus ébranlées par le temps que par les coups du sous-sol. Pour faire vite, les camions déchargeaient la forêt de troncs par leur abattant. Ils tombaient dans un grondement brutal et sourd. Le sol tressaillait, des personnes dévalaient les escaliers, prêtes désormais à abandonner leur maison à la moindre secousse. Ensuite venaient les jurons. Nous scions à la main à vue de nez aussi bien des coupes droites que celles à 45 degrés. Nous descendions dans les caves pour fixer les étais. Nous terminions notre ouvrage dans les greniers. Les rats filaient entre nos jambes, courant dans les escaliers. Le dégoût des premiers jours s'apaisa et nous avons bien ri de la commission municipale qui descendit dans les sous-sols pour contrôler notre travail et en sortit à toute vitesse lançant ses papiers en l'air. Il restait sur nos mains l'essence tenace de la résine. Elle faisait penser aux montagnes. Un arbre est vivant plutôt comme un peuple que comme un individu. La foudre seule devrait être chargée de l'abattre. Dans les rues, sur les petites places du quartier Sanita, où se trouvait le chantier, nous élevions des murets de tuf ou de béton en forme de barrage, de labyrinthe, obéissant à une loi mystérieuse qui accumulait les entraves. La ville circulait sous les échafaudages, entre les lacets créés par les contreforts, les ruelles obstruées. Comme du temps des navires bourboniens, lorsqu'on donnait l'ordre « Facite amuina, brolva général », qui impliquait pour ceux qui étaient à l'arrière de courir à l'avant et vice-versa, pour ceux qui étaient sous le pont de monter à l'extérieur, alors que ceux qui s'y trouvaient déjà devaient descendre, donnant à l'œil distrait du roi l'impression de manœuvre rapide. Ainsi, cet ordre absurde et efficace semblait exécuté sur la terre ferme, couvrant la ville de béquilles et de bandages, là où, un peu avant, on ne voyait qu'éventaire et linge étendu. J'ai travaillé sur des chantiers du Nord, mais je n'ai pas ressenti le froid de cet hiver-là à Naples. La tramontane se glissait dans les ruelles, les cours, entortillait les nerfs, ridant de violet le dos des mains qui ne se réchauffaient que dans la paume serrée sur la pelle. Le visage de chacun de nous, balayé durant des heures par ce vent, se figeait en une grimace. Il n'y avait pas un endroit pour souffler. Je retrouvais un peu de chaleur dans le sous-sol du métro. Au cours du trajet, place, Cavour, Campi Flegrei, où j'habitais. Alors je sortais de mon sac « Voyage au bout de la nuit » de Louis-Ferdinand Céline et je lisais. Jamais je ne m'étais sentie aussi inutile parmi toutes ces balles et les lumières de ce soleil. Je n'avais que 20 ans à ce moment-là. Il y a des livres que l'on rencontre à des moments difficiles. On les achète chez un bouquiniste, sous prétexte de sauver une vieille édition de l'abandon. Puis, on les expose à ses propres intempéries et ils sont mis en pièces par l'intensité avec laquelle on lit leurs lignes, on feuillette leurs pages. Dans l'obscurité du métro de Naples en cet hiver sec de 1981, la foule exhalait ses frissons dans son souffle, se mouchait, avait les yeux brillants. Elle dégageait l'odeur qu'il fallait à un lecteur du voyage pour respirer le livre. Les pages répondaient à la laine du wagon et des aisselles sèches des feuilles montaient l'autre odeur, relent d'un écrivain qui, dans cette œuvre, s'était livré tout entier, déversé au point de n'avoir plus rien à dire. Comme cela arrive à peu de gens, écrivains ou non, qu'ils le sachent ou non. Un maigre manœuvre serrait dans son poing le voyage, préservant le temps de son aller-retour. Céline supportait la morsure et répondait en portant avec lui foule, train et lecteur. Je ne lisais pas ailleurs, rien que là. Quand le chapitre ne coïncidait pas avec l'arrêt, je le finissais sur le quai. Je n'étais pas pressée de retrouver ma cuisine, de sortir du boyau des trains, gisement qui extrayait mineurs et minés, hommes qui suaient le vert clair du soufre, clivés comme des scories par la pioche, enfumés, éteints comme le soir. À la maison, je lisais le journal. Je préparais le dîner. Le sommeil remontait de mes os jusqu'à mes yeux, mais je restais éveillée. J'attendais la fille que j'aimais, son retour le soir. Je la perdais un peu tous les jours, sous mes paumes épaissies qui égratignaient sa peau sans parvenir à la sentir. Au lit, je l'enlaçais en gardant mes poings fermés. Je descendais sur elle, tronc poussé dans la descente en course vers le saut. Puis je roulais sur un côté, m'effondrant dans le sommeil comme une bûche sur un tas de bois. Céline perdait la raison par le bouchon de la douleur. Bientôt, il n'y aura plus que des gens et des choses inoffensifs, pitoyables et désarmés tout autour de notre passé. Rien que des erreurs devenues muettes. C'est ce que je devenais pour elle. Les fissures des siècles étaient arrivées à l'heure du rapport. Les crépis et les corniches qui étaient toujours tombés avec une lenteur salutaire pour les passants furent enlevés d'un coup. La ville découvrait la griserie de la remise en état. La distribution généreuse des fonds incitait toutes les copropriétés à la restauration gratuite. L'urgence, condition intérieure des Tyréniens du Sud, disséminée sur un grill sismique et volcanique, fut alléguée comme règle de dépense. L'occasion de s'enrichir défit l'ordre précaire des commerces illicites. Des bandes surgissaient et se décimaient pour le contrôle de quelques mètres de trottoir. En prison, d'autres secousses permirent aux hommes qui se haïssaient de s'égorger jusque dans les infirmeries. Le degré de la fièvre, la température au sol, se mesurait à la liste des victimes dans les faits divers. Une richesse toute neuve descendait en pluie et retombait en sang. La ville était écrite. Nuages, mares de café, tatouages, trous d'entrée et de sortie, rafales écrivaient sur la peau de ceux qu'on tuait. Le vent, de sa plume de glace, gravait des rides sur le visage. Nul ne savait lire ces signes. Je passais dans les rues avec le voyage sous le bras comme un sauf-conduit. Je me dérobais à la ferveur, au tremblement de la ville. Ce n'était pas ma guerre. J'étais distant aussi de la sourde pitié de Céline, errant d'une plaie à l'autre et qui conservait les gestes d'un médecin groggy. Il me tapait sur les nerfs, ce livre. Il employait trop d'argot pour raconter le malheur des gens, guerre et ruine de toutes sortes. Maintenant, je sais que je cognais la ville et les pages l'une contre les autres. Elles venaient de la même poussière, comme en suspens et déjà imprégnées de sang. Elles étaient bien ainsi opposées face à face. Elles glissaient entre mes mains sans s'annuler, s'additionnant au loin. Elles ne me pesaient pas. Je restais fatiguée d'autre chose, sale d'autre chose. Un train tiède de tout me ramenait le soir au terminus de l'obscurité, livre fermé, voyage au bout de la nuit. Ce bout n'était pour moi que l'aube suivante et je n'avais pas hâte d'y arriver. Je fermais les yeux dans un écroulement à côté de la délicate jeune fille. Un matin, nous étions au travail, un vieux maçon et moi, sur une placette de la Sanita. Nous malaxions à la main les mètres cubes du jour, sable et gravier, les mélangeant avec l'eau et le ciment. Nos bras allaient tout seuls, notre regard absorbé par le gâchage, mais lointain aussi. Notre respiration suivait l'appel dans sa descente. Deux jeunes petits frimeurs passèrent sur une motocyclette. Ils s'arrêtèrent pour nous regarder, puis l'un dit à l'autre « Vise-moi ça, qui ferait jamais ce truc-là ?» Mon compagnon leva les yeux du gâchage, essayant de faire une mise au point comme s'il les rappelait de loin, d'un livre, lentement. Ils se posèrent sur moi. Ils attendaient une réponse, une indignation rapide. Il frappait à mon sang. Je ne répondis pas. Le mépris des petits voyous envers nous me semblait périmé, usé. Rien à côté de Céline, contre eux, mépris actuel de colère. Ils sont seulement jeunes à la façon des furoncles à cause du pu qui leur fait mal en dedans et qui les gonfle. Je ne lui rendis pas son regard. C'était des années d'indignation émiettée. Chacun était seul dans la sienne. Il n'y avait plus de colère commune. Je me baissais avec plus de force sur le gâchage, accélérant les coups de pelle. « Ami, ceci est encore bien léger. Nous chargerait-il du double que nous le supporterions ? Laisse-les tourner sans fin la manivelle qui met en marche le moteur, que s'imprègne de leur aisselle l'arme dans son étui. Ils sont si nombreux à se frayer un chemin dans ce monde exigu. Alors que nous sommes de ceux qui ne prennent la place de personne, nul ne viendrait nous la prendre à nous. Mais je ne parlais pas, je ne disais rien. Parfois, durant une journée entière, sur mon travail, seule ma respiration sortait de ma bouche. Dans d'autres villes, j'avais été quelqu'un de Naples. Cette provenance suffisait aux autres et à moi-même. À Naples, elle ne m'était pas créditée. Au sein des ouvriers de ma langue, j'étais accueilli comme un étranger. Pour eux, j'étais quelqu'un des autres villes. La fatigue avait laissé sur moi d'autres attitudes, d'autres usages. À l'heure fixée, j'abandonnais mon travail là où il en était, alors que les autres offraient encore un peu de leurs bras au temps déjà vendu. Alors un brusque salut suffisait pour que j'aille me laver. On est étranger à l'endroit même où on est né. Là, il est seulement possible de savoir qu'il n'existe pas de terre de retour. Un tas de détritus dans une cavité du sous-sol brûla dans les vieux quartiers pendant des jours. Il y a des villes qui reposent sur l'eau, d'autres sur le vide. Naples est sur une mie de tuf trouée de grottes, de carrières souterraines, de canaux perdus. Le tremblement de terre qui se décharge au-dessous d'elle trouve des chambres d'air où il résonne, par vagues, chante, gronde. Jean, dans l'Apocalypse, le dernier des livres, a tenté d'écrire ce son-là. De temps en temps, les soutes de pierre cèdent en un point et le sous-sol exhale des odeurs. Le tas de détritus brûla pendant plusieurs jours. La grappe de fumée s'élevait dans le ciel. Je la voyais de la place Cavour, je la reniflais. Elle laissait tomber en sombres flocons des cendres de déchets que je tentais de distinguer. Rien ne force les souvenirs à se montrer comme les odeurs et les flammes, écrivait Céline, tandis que brûlait sa case en Afrique et qu'il se remémorait un incendie à Paris. Ce n'est pas mon cas. De nuit, j'ai vu exploser une raffinerie, et le jour, les feux d'essence dans les rues. J'ai vu les champs en flammes. Pourtant, ce feu ne ressemblait à rien. Sous terre, je sentais brûler un cimetière. Ossements, souliers, chapelets, fleurs, lampes, croix. Je reniflais pour ajouter des odeurs au catalogue des combustibles. La fumée montait du puits fissuré, des bouches d'égout, des tuyaux et d'une crémation générale. Je voulais en imprégner mon nez. Je croyais, et je crois encore, que la ville exhalait en ce moment-là son âme, si elle en avait une. L'hiver s'était attardé jusqu'au milieu du printemps. À la maison, le soir, quelques phrases. « À quoi penses-tu ? Où seras-tu demain ? Ne reste pas éveillé à m'attendre. Ne me réveille pas. Attends, il viendra l'été que nous avons mis de côté petit à petit. » Elle était déjà à la fenêtre. Sa chevelure étalée comme un écheveau défait. Elle la séchait au soleil, celui de mai. Elle se lavait de moi, de mon odeur de résine, de mon sommeil de plomb. Elle détachait ses affaires de la pièce. Moi non plus, je ne reste pas si tu t'en vas. » Elle pleura dans le creux de mes mains sèches. Pas une goutte ne tomba à terre. Le voyage était fini. Le jeu du roman rentrait à Paris dans le vacarme d'une fête de quartier. Les pages étaient en lambeaux. J'en avais perdu des bouts à force d'être bousculée par les gens. Je gardais les 20 dernières pliées dans ma poche et je les lus comme une lettre. Elle n'en avait pas léché. Hors de la station, je les jetais sur un tas d'ordures. Je ne conservais pas mon courrier. De loin, le remorqueur a sifflé. Le dernier alinéa du livre lançait un appel à un bateau sur la Seine. Ce son imaginaire resta gravé dans mes oreilles, tandis que je traversais l'esplanade. J'attendais un sifflement, une sirène, d'un train de passage qui répondrait à temps à cet appel. Je voulais alors que les livres fussent au monde les anges gardiens des adieux. La ville ne répondit pas. Ça, c'est dur, hein? C'est beau et c'est... Voilà. Nous avons terminé. Si vous avez envie de poser des questions ou si vous vous sentez fatigué. On a essayé de trouver des... Une écriture semblable chez Rivluka. Elle se ressemble quand même dans le violon. Et dans le dernier, qui est assez poignant, la ville ne répondit pas. Il y a un désespoir. Et dans le roman de Simonetta Greggio, que personnellement je découvre, hein, j'ai entendu une fois, c'est très étrange, hein, fantastique. Je ne sais pas comment expliquer les fourmis. Chacun son interprétation.
Geneviève.
Bon, on a écouté, on ne sait pas quoi dire, on a écouté, c'était merveilleux. C'est votre avis?
Oui.
Alors on les a vus. Une prochaine fois encore pour des textes comme ceci. C'est merveilleux d'entendre, d'écouter comme ça la lecture de livres. On a perdu l'habitude. On ne fait que regarder, mais écouter comme ça, c'est le bonheur. Voilà.
Comme moi, quand j'entends la musique.
Voilà. Eh bien, merci beaucoup.
Merci à vous.
Oui.